Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
Bon, c'est un plaisir de
bonsoir.
C'est un plaisir de t'entendre, Hervé. Hein. Ça faisait un bout de temps qu'on ne t'avait pas eu dans les médias en France et dans Rotten sans flamme. Donc merci de nous accorder cet entretien pendant quelques minutes. Déjà, le but de l'entretien, c'est de mettre ton livre en avant.
Ouais.
Pourquoi un livre maintenant ?
J'étais pas tellement pour. Maintenant, il y a une explication. J'ai un ami d'enfance qui s'appelle Édouard Jay.
Qu'on connaît bien.
Qui fait partie de votre maison. Et on jouait ensemble dans son jardin. On avait 10 ans. C'était l'époque de l'AS Saint-Étienne, l'épopée des Verts. Donc, on refaisait le match un peu dans le jardin. Il avait un but en alu magnifique avec des filets. Une grande surface avec une cabane, on changeait dans la cabane et puis voilà. Et puis après, on a joué à Aix-les-Bains ensemble, 12, 13, 14 ans, jusqu'à ce que je parte à Cannes. Donc voilà l'explication. Et il m'a dit, il faudrait faire un livre. Je lui ai dit, Edouard, je suis pas mort. il me dit, non, mais si j'ai pas fini. Ça fait 25 ans que j'entraîne, mais j'ai pas fini. Il me dit, mais s'il faut en faire un autre, on en fera un autre. Donc j'ai accepté pour lui, mais j'ai accepté que pour lui parce que je suis un peu inconfortable avec ça.
C'est pour ça que ça a mis du temps. Maintenant que je sais que c'est Edouard qui a écrit le livre, tu m'en avais parlé il y a 3 ans, donc il a mis 3 ans pour écrire le livre.
Non, il a mis très peu de temps, mais il n'arrivait pas à me convaincre, quoi. Voilà, il n'arrivait pas à me convaincre parce que j'ai toujours dit non.
Le livre, c'est donc « Moi, le foot, l'Afrique », coécrit avec notre confrère et notre ami Édouard Jay. Ce livre particulier, moi, je l'ai ressenti comme un besoin aussi de remercier tous ceux qui vous ont tendu la main. Ça fait partie de votre histoire. Vous avez eu un parcours atypique. Hervé, ce besoin de prouver éternellement, d'ailleurs, on peut dire, parce que vous avez eu d'immenses réussites. Vous êtes double vainqueur de la Coupe d'Afrique.
Ouais.
Vous avez eu plein d'expériences. Vous êtes sélectionneur de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et malgré tout, eh bien, vous avez dû vous servir des mains qui vous ont été tendues, notamment Claude Leroy, qui est un peu votre mentor. Et on a senti dans le livre ce besoin de leur dire merci à tous ces gens-là, à des présidents de clubs amateurs qui eux aussi vous ont tendu la main. C'était l'occasion parfaite de le faire, d'ailleurs, ce livre.
Oui, je pense, oui. On ne se fait jamais tout seul. J'ai eu une maman remarquable qui m'a accompagné, qui m'a forgé un caractère un peu à son image. Et ensuite, j'ai rencontré des gens, on dit toujours dans le milieu du football, mais on rencontre toujours des gens qui marquent et des gens qui ont été importants. Parfois, ça nous revient à l'esprit quelques années après, mais on se rappelle, celui-là, il a quand même été solidaire à cette époque parce qu'il aurait pu se séparer de moi et puis il ne l'a pas fait. Et donc, je pense que c'est important de se souvenir. C'est un métier qui est tout sauf facile, sinon ça se saurait. Mmh. Donc, parfois, on prend quelques coups, comme dans une carrière de joueur, mais on est exposé, ça fait mal, c'est les familles qui en pâtissent, mais il y a aussi de très belles histoires, et puis des rencontres sur le plan humain qui sont magnifiques.
Il y a un peu de Rotten sans flamme dans ce livre. Hein. Il y a 2-3 taquets que j'ai appréciés. Je vous laisserai découvrir tout ça. Hervé a mis 2-3 tacles.
Pas trop,
mais quelques-uns quand même bien adressés et qui ont été assez...
Bien adressés.
Assez marrants. Ouais. Écoute, il y a quelques personnages mis en avant.
Ça fait partie du jeu.
Certains qui voulaient devenir calife à la place du calife.
Ouais.
Voilà, c'était assez savoureux. Je vous conseille d'aller lire ce livre.
Et, Hervé, on va parler un peu de la CAN. Bon, la CAN, tu la connais très bien. Benoît le disait, deux fois vainqueur de la CAN, donc c'est quand même un palmarès incroyable. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette CAN au Maroc ?
J'ai trouvé qu'elle avait été magnifique. C'était comme un repas. Tout a été très bon, sauf le dessert.
Et ouais.
Voilà.
Ouais.
Et quelque part, aujourd'hui, l'image de l'Afrique va en pâtir un peu. C'est dommage. Parce que ça a été une compétition remarquable, j'ai trouvé. J'ai suivi tous les matchs. Je n'ai pas loupé une seule seconde. Et malheureusement, ça s'est fini un petit peu de façon triste, on va dire. Même si on peut dire qu'il y a un beau vainqueur. Et deux belles équipes en finale. Certainement les deux plus grands favoris. Les deux meilleures équipes de ce tournoi. Mais on reste un peu sur notre faim, alors on va certainement oublier un peu, ça va s'estomper, mais il y a quand même des images qui sont fortes et qui resteront.
Moi, tu fais forcément référence à déjà à l'attitude des Sénégalais qui sont sortis du stade de la pelouse pendant quelques minutes. J'imagine que toi, en tant que sélectionneur, éducateur, voir ça, voir que c'est venu du sélectionneur, ça a dû te faire quelque chose quand même.
Ben, ça paraît irréaliste, mais je pense qu'ils se sont sentis mal à l'aise, voilà. Et donc, bon, faut se remémorer la conférence de presse de la veille par rapport au déplacement de la veille, tout ça. Bon, ouais. Moi, je le connais, Papthio. Je pense que c'est une bonne personne. Mais c'est pas, je pense même, c'est une bonne personne. Il a réagi comme ça, mais il a fait son mea culpa après le match. Donc au moins, il reconnaît son erreur. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se faire ça, puisque sinon, dans tous les matchs, ça serait une chaîne sans fin. Donc c'est vrai que c'est une attitude qui n'est pas exemplaire, mais parfois, dans un moment à chaud comme ça, on peut faire des erreurs. Donc ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé au mauvais moment, on va dire. Et surtout que... quand on voit l'issue finale, on se demande comment c'est possible, quoi, que ça se termine comme ça. Mais ça s'est passé comme ça. Maintenant, on peut plus rien faire. Hein.
Ouais. Le mal est fait, ouais, c'est sûr. Mais tu parlais des péripéties dans ce match. Forcément, ce qui a donné une deuxième chance aux Sénégalais, c'est cette Panenka de Brahim Diaz tentée à la dernière seconde là, et ratée. Là aussi, je voudrais ton regard de sélectionneur. Moi, je me suis mis dans la peau du joueur que j'ai été dans un vestiaire. Si j'avais un coéquipier qui fait ça, j'ai donné mon avis. Après, ce n'est que le mien et ça me regarde. Mais j'aimerais bien savoir, toi, le regard que tu as là-dessus. Quand tu es un sélectionneur, tu te mets à la place de Walid Regragui et tu vois ton joueur qui tente ce geste-là de folie. C'est quoi ta réaction, toi ?
L'incompréhension. On a joué au football, on peut rater un pénalty. Hein.
Ah bah oui.
Ça nous est certainement tous arrivé.
Pas moi, mais
mais toi, t'avais un pied gauche magique, ça va.
Merci, Hervé.
Après, il y en a certains qui avaient des pieds gauches magiques et à qui c'est arrivé aussi, Diego Maradona.
C'est vrai.
Donc, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est la manière. Est-ce que c'est de la désinvolture? Est-ce que c'est un moment de stress ou un changement d'avis à la dernière seconde et qui fait que l'action est ratée? Ou est-ce que c'était vraiment voulu de frapper au milieu du but? Et en quelque sorte de marquer un but qui reste dans les annales, mais malheureusement c'est une frappe qui va rester dans les annales, mais pas pour
pas les bonnes raisons,
pour de bonnes raisons. Voilà.
Hervé Renard, l'invité exceptionnel de Roten sans flamme sur RMC. Vous connaissez l'Afrique par cœur, vous connaissez différentes sélections. Il y a eu la Zambie, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a aussi eu le Maroc avec de beaux passages avec la sélection marocaine. Comment vous avez réagi, vous qui connaissez parfaitement ce pays? Vous avez vu l'organisation qui a été donc magnifique de cette Coupe d'Afrique au Maroc. Par rapport à cette jalousie vis-à-vis du Maroc, est-ce que vous l'avez ressenti? Comment vous réagissez quand vous voyez d'autres sélections, d'autres joueurs, d'autres sélections qui viennent comme ça se réjouir de la défaite des Marocains? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ou est-ce que vous dites que ça fait partie du jeu?
Moi, sincèrement, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que je ne vois pas qui s'est réjoui, mais peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, je n'y suis pas, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, nous, c'était un petit match à la maison. Ma femme est sénégalaise.
Ah oui.
J'ai été entraîneur 3 ans et demi du Maroc, donc vous savez le camp que j'avais choisi
pour
la chambrer à la fin. Et donc, c'est pour ça peut-être que j'ai encore moins apprécié le pénalty. Comme j'aime pas perdre, malheureusement, c'est moi qui me suis fait chambrer.
Ouais.
Donc voilà, mais je pense que... De toute façon, on en a déjà parlé puisqu'on était à Doha ensemble, c'était en 2022. Maroc est sur une dynamique exceptionnelle. N'a pas réussi à gagner cette CAN, mais a fait une CAN merveilleuse jusqu'à peut-être ses prolongations. Et il ne faut pas se faire de soucis pour cette nation, elle va gagner bientôt. Il faut se rappeler qu'avant que le Sénégal remporte sa première étoile à la Coupe d'Afrique, il s'est passé de nombreuses années, notamment une défaite en finale d'une CAN avec Aliou Cissé contre l'Algérie. Donc parfois, on apprend de ses erreurs, mais ils vont devenir encore plus forts. Et puis, dans quelques années, je suis sûr que le Maroc va remporter une CAN, parce que ça fait 50 ans, on le répète. Hein.
C'est vrai.
Et 50 ans, c'est énorme pour une nation qui, depuis quelques années, n'arrête pas de grandir, n'arrête pas d'avoir des résultats exceptionnels. Donc, c'est un petit coup d'arrêt, mais c'est simplement, je pense, un petit coup d'arrêt momentané. Mmh.
Juste pour terminer sur la CAN et sur donc, ce geste fou de Brahim Diaz, cette Panenka, comment vous auriez réagi si vous aviez été son sélectionneur ? C'est-à-dire, comment se sortir de cette histoire pour lui et pour la sélection marocaine ? Comment faire en sorte que l'histoire puisse se recoller, sachant qu'il a été meilleur buteur de la compétition ? Il fait cette erreur en finale. Comment on fait quand on est sélectionneur pour le raccrocher, le rattraper, le remettre sur les bons rails pour la suite et la Coupe du Monde ?
Je pense qu'il faut se dire les vérités. C'est important. Maintenant, on tourne la page. Hein. Le football, si on n'est pas capable de tourner une page, on est incapable d'avancer. Donc des erreurs, on en fait tous. Là, c'est une grosse ou une immense erreur, mais il faut savoir passer à autre chose. Voilà. Et la plus grande caractéristique dans le football, c'est d'être très fort mentalement. Donc il faut passer ce cap, qui sera certainement pas facile à passer au mois de mars, si jamais il est sélectionné, ou au mois de juin à la Coupe du Monde. Mais le temps va faire en sorte que on va oublier petit à petit, et puis qu'il y a de très très grands joueurs qui ont aussi raté des pénaltys, et certainement d'une autre manière, mais là c'est pas le fait de rater le pénalty, c'est la manière dont ça s'est passé. Alors après, on peut trouver plein de circonstances atténuantes, hein. Il y a eu trop de temps, c'est vrai.
24
c'est
minutes.
Vrai, hein. C'est vrai, c'est énorme. Il y a le temps de Gamberger, de peut-être se voir un petit peu trop beau. Ça fait partie de la nature humaine, hein, c'est comme ça. Mais malheureusement, il y a une issue qui est finale, qui est pas bonne pour le Maroc. Mais les plus grands sportifs, les plus grands champions, c'est ceux qui rebondissent le plus vite. Voilà, exact. Donc Brahim Diaz joue dans un énorme club, donc je suis persuadé qu'il réussira à rebondir. Avec l'apport de sa fédération, de son coach et puis de ses coéquipiers qui l'aideront à ce que ce souvenir ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
Pour parler de personnes qui rebondissent au niveau des sélections, de nouveau, tu as rebondi, Hervé, il y a quelques mois en reprenant donc l'Arabie Saoudite. Et là, on se projette sur la Coupe du Monde, c'est plus l'actualité, ton actualité. Déjà, comment tu appréhendes cette Coupe du Monde ? Et est-ce que quand on a une Coupe du Monde à 48, on revoit un petit peu ses ambitions quand on s'appelle l'Arabie Saoudite ?
Oui, l'ambition serait de rejoindre les 16e de finale. C'est même une obligation, on va dire. Faut pas se cacher. Même si c'est un groupe relevé, quand on sait que sur tous les participants, 6 meilleurs 3e feront partie, je dis pas de bêtises, non, c'est plus même, c'est 8 meilleurs 3e feront partie du tour suivant. Donc, ce qui fait qu'il y aura que 4 éliminés. Il faut surtout pas être dans ces quatre, quoi.
Ouais, ça c'est sûr. Je rappelle votre groupe d'ailleurs, Hervé, l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay. Ce qui est difficile en termes de calendrier, c'est que vous démarrez par l'Uruguay le 15 juin, l'Espagne le 21 juin et donc le Cap-Vert, le match le plus abordable sur le papier, le 26 juin.
Ouais, là, faut pas perdre contre l'Uruguay, quoi. C'est ça, en fait.
Ouais, ce qui est une belle équipe. Et puis l'Espagne, n'en parlons pas.
Hein. Ouais. Bon, après, tu sais faire contre les grosses. Hein. T'es la seule équipe à la Coupe du Monde au Qatar qui a battu l'Argentine.
Eh ouais, dès le premier match.
Oui, c'est vrai, mais bon, je pense qu'on sera déjà notre premier adversaire sera un peu plus méfiant, parce que vous pouvez imaginer les conférences de presse avant ce premier match, bon, ça va revenir en boucle, là, il n'y aura pas d'effet de surprise ou pas de déconcentration de notre adversaire. On fera peut-être une surprise au deuxième match, qui sait.
Hervé, pour parler de cette Coupe du Monde qu'on voit par rapport au Qatar, les deux stades les plus espacés, ils étaient à 50 km, je crois. Là, on voit les longs déplacements, les décalages horaires, les contraintes géographiques aussi, y compris la chaleur. Durant ce mondial, comment on prépare un mondial de la sorte quand on sort d'un mondial au Qatar qui était complètement à l'opposé ?
Oui, de toute façon, avant beaucoup de temps, on n'aura plus une Coupe du Monde comme on a eu au Qatar, qui a été, je dirais, magique. les amateurs de football pouvaient voir en faisant un peu vite et en s'organisant bien 3 matchs par jour. C'est exceptionnel, quoi. Et donc, il n'y a rien qui sera comparable. Maintenant, pour les États-Unis, le Canada, le Mexique, il y a 3 paramètres à prendre en compte. C'est le décalage horaire, la situation géographique et les déplacements. Parce que de notre camp de base, on va dire que les déplacements, peut-être que le maximum, ça sera 2 heures, 2 heures et demie de vol, mais il faut les effectuer quand même. Donc on laisse un petit peu d'énergie. Et c'est des paramètres qui seront différents de ce qu'il y a eu au Qatar. Voilà. Donc il va falloir s'adapter, bien gérer les décalages horaires, parce que c'est important. Nous, on a par exemple 8 heures de décalage horaire, hein, ce qui est beaucoup. L'Europe, aujourd'hui, la France, 6 heures. Si vous êtes sur la côte Est,
oui.
Voilà, tout dépend encore. Nous, on sera à notre premier match Miami, Atlanta et Houston. Donc voilà, c'est un décalage horaire de 8 heures.
Ouais. Quand même.
Et oui, il y a de la distance à effectuer entre ces 3 villes.
Hervé, moi, je voudrais que tu me parles de l'Arabie Saoudite aussi. Comment ça se passe, toi, personnellement, après ton retour, qui, encore une fois, a surpris plus d'un. Là, dernièrement, il me semble, alors, tu es mieux placé pour en parler, mais moi, j'avais entendu ici qu'il y avait des rumeurs de ton remplacement, ce que je n'avais pas compris. Est-ce que tu confirmes qu'il y a eu des rumeurs, ça allait plus loin ou c'est que des bruits de couloir?
Bon, il n'y a jamais de bruit de couloir. Hein.
Ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu alors.
Ouais. Non, on va remettre les choses dans l'ordre. Les éliminatoires Coupe du Monde, Roberto Mancini fait 4 matchs, il reste 6 matchs. J'arrive à ce moment-là, il nous reste 6 matchs. On a 4 matchs à l'extérieur, 2 à domicile seulement.
Ah ouais.
Donc on va au Japon, en Australie, on fait 2 matchs nuls et on n'arrive pas à se qualifier directement, c'est-à-dire comme en 2022 pour la Coupe du Monde, on avait fini premier devant le Japon et l'Australie. Et là, cette fois, on réussit à être barragiste, mais Japon premier, Australie deuxième, Arabie Saoudite troisième. Donc on passe par les barrages, on se qualifie. Donc là, à partir de ce moment où on ne s'est pas qualifié directement, c'est là où il y a eu les premiers remous. Mmh. Et je pense que des personnes voulaient que je prenne mes affaires et que je rentre chez moi.
Ouais.
Parce que quelque part, dans leur esprit, certainement que je n'avais pas atteint l'objectif. Mais il restait encore un joker. Et ce joker, on a réussi à l'obtenir, c'est-à-dire de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc voilà, après...
T'es passé, c'était quoi? C'était plusieurs matchs, un seul barrage?
Deux matchs, ouais. Mmh. On avait l'Indonésie, qui a beaucoup de joueurs originaires des Pays-Bas, dont un qui joue à Lille, Verdonk, qui joue latéral gauche. Mmh. Et voilà, donc ça... Voilà, et puis un match contre l'Irak, donc il fallait finir premier de la poule, on a fini premier, et on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc l'objectif atteint, mais il y a toujours des choses à redire. Hein. Ce qui m'avait fait revenir peut-être il y a un an, 15 mois, enfin un an avant la fin des qualifications, des playoffs, là, peut-être qu'ils avaient oublié dans la situation dans laquelle était l'équipe.
Eh oui, oui.
Mais ouais. Ça, c'est le football, on oublie vite, c'est comme ça. Il faut, de toute façon, on connaît notre métier. On peut se réveiller le jour d'après, demain, et puis avoir un coup de fil, et puis on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, ça arrive à tout le monde, c'est arrivé dernièrement, vous l'avez vu, hein, Xabi Alonso, à d'autres, Le Mignon à Metz. Voilà. Après, tout est discutable. Pourquoi on a changé le coach de Monaco? Ouais. Ça, il y a
alors
que les dirigeants
là.
Qui savent peut-être pourquoi, mais ouais. Nous, on n'est pas à l'intérieur, on n'a pas les mêmes paramètres, donc on voit ça de l'extérieur avec notre passion pour le football. Donc il y a eu des bruits, oui, il y a eu même un communiqué comme quoi j'étais viré.
Eh oui, ça allait loin, hein, bien sûr.
Ah là, ouais. C'est donc, là, ouais. Mais ce communiqué n'est pas venu de nulle part. Hein, faut pas.
Oui,
on
n'est
pas
d'accord.
Non plus.
Oui.
On n'est pas né de la dernière pluie non plus. Hein.
Ouais. Bon.
Il y a des manipulations médiatiques qui font que certains s'amusent à les faire, mais ça fait partie du jeu, tant pis.
C'est pas l'essentiel, c'est que tu sois là et que tu prépares cette Coupe du Monde avec tes joueurs. J'imagine que toi, le personnage que t'es, l'expérience que t'as, le groupe te suit à 100% et que vous êtes heureux de participer à cette Coupe du Monde au mois de juin ensemble.
Voilà, c'était l'objectif, on l'a atteint. Maintenant, place à la suite.
Et Hervé, moi, une question sur le niveau du championnat d'Arabie Saoudite. Alors, on a souvent Cristiano Ronaldo hein, qui, nous, ouais. et qui peut nous mettre une petite mine, que ce soit à la France ou à d'autres pays européens, en comparant le niveau de l'Arabie Saoudite, qui n'a rien à envier au niveau du championnat de France, par exemple. Toi, qu'est-ce que tu en penses dans cette progression? J'imagine que même pour toi, en tant que sélectionneur d'Arabie Saoudite, c'est quand même un bon signe envoyé, si tu veux, quand tu vois que le championnat est un peu plus relevé qu'en 2022.
Alors, il y a deux choses importantes. Déjà, le championnat d'Arabie Saoudite est d'un bon niveau. Mmh. Il y a 5-6 équipes de très, très bon niveau. Après, la deuxième partie, ça ne vaut pas la Ligue 1.
D'accord.
Mmh. Voilà. Mais la première partie, Al-Hilal, Al-Nasser, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Qadisiya, c'est 5 équipes d'un très, très bon niveau qui peuvent rivaliser avec beaucoup d'équipes en Europe. Donc c'est pas encore un championnat complètement homogène en toute objectivité, mais par contre il y a de bonnes équipes aussi qui sont comme il y a en Ligue 1, comme il y a dans tous les championnats de France, en Espagne, partout, en Angleterre, en Allemagne. Donc et puis c'est toujours difficile de comparer quelque chose qui est pas comparable. Et ensuite, il y a deux paramètres. Le championnat progresse de plus en plus. Par contre, il y a de plus en plus d'étrangers
par équipe. C'est ça la problématique, bien sûr.
Et ils sont passés à une Champions League asiatique avec 10 étrangers, alors qu'avant, il n'y en avait plus que 4. Par exemple, en 2022, quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde.
Ouais.
Donc, pour faire très vite, aujourd'hui, j'ai des joueurs qui jouent de moins en moins. Et ça va devenir un très, très, très gros problème pour l'équipe nationale. Oui. Ça l'est déjà.
D'accord. Mais justement, alors, quand on est sélectionneur, quel message fait-on passer à la fédération? Est-ce qu'il ne faut pas inverser ça? D'un côté, il y a la promotion de l'Arabie Saoudite à travers son championnat de foot et toutes les stars qui débarquent, hein, Benzema, Ronaldo, Mané, ouais, il y a énormément de très grands joueurs qui sont passés. Mais effectivement, ça ferme des portes à vos joueurs. Donc, est-ce que la fédération a conscience de ce problème? Est-ce qu'ils vont vous aider dans cette problématique avant la Coupe du Monde pour essayer de les faire jouer un peu plus?
On est à 5 mois. Hein.
Ouais, c'est un peu tard. C'est ça.
Donc,
mais il y aura une autre échéance un peu plus importante pour l'Arabie Saoudite ensuite.
Ouais. Aujourd'hui, il y a deux caps différents. C'est les deux caps que vous avez cités. C'est-à-dire la promotion du championnat qui, à mon avis, mais ça c'est que mon avis, va ne faire que progresser en augmentant peut-être le nombre d'étrangers encore. Eh ben, ce qui va pénaliser encore plus l'équipe nationale si des solutions alternatives ne sont pas trouvées. Et sa solution alternative, j'en parle depuis 2019, mais à ma petite échelle.
Est-ce que l'équipe que vous allez envoyer, que vous allez convoquer pour la Coupe du Monde 2026, sur le papier, pour vous, est plus forte que celle de 2022?
Non. Non, non, l'équipe... intrinsèquement, l'équipe est moins forte.
Ah oui? D'accord.
À cause de ça, alors?
C'est une raison essentielle. Déjà, à la Coupe du Monde 2022, au niveau des statistiques des temps de jeu par compétition, vous savez qu'un garçon comme Achraf Hakimi a fait 64 matchs officiels l'année dernière. Nous, on était la dernière nation au niveau de la moyenne des temps de jeu.
Ah oui, d'accord.
Donc aujourd'hui...
C'est quoi en moyenne, à peu près, un joueur qui joue pas beaucoup, comme tu dis?
Ah mais moi j'ai des joueurs qui rentrent que dans les 15 dernières minutes à chaque match, 10 minutes, parfois c'est... pas. Mais alors il y a aussi ce problème, c'est que je dois me rabattre sur d'autres. Mais encore faut-il que trouver des joueurs de niveau international.
Eh oui. Au moins ils vont être frais, Hervé. Hein.
Ouais. Ils frais pour le premier match.
Mais après la suite ça va être.
Et le troisième encore un peu plus dur.
Ouais.
Voilà. Hervé, est-ce que vous vous projetez au-delà de la Coupe du Monde 2026 avec cette sélection saoudienne? Je le disais, il y a un énorme rendez-vous pour l'Arabie Saoudite en termes de foot, ce sera la Coupe du Monde 2034. Est-ce que là, vous avez seulement une vision à court terme avec toutes les rumeurs qu'il peut y avoir et différents communiqués qui sont diffusés?
J'imagine.
J'ai une vision jusqu'à demain matin.
Ouais, j'anticipe ta. Moi, okay. J'allais anticiper ta réponse. Ouais. Et Benoît, tu vois Hervé dans 8 ans encore à la sélection d'Arabie Saoudite, alors que là, il voulait lui couper la tête, alors qu'il a qualifié l'équipe.
Ça dépend de ce qu'il fait à la Coupe du Monde.
Écoute, oui.
Ça peut devenir un dieu vivant comme en Zambie ou comme dans les autres pays d'Afrique.
C'est tout le mal qu'on te souhaite.
Oui, bien sûr.
Pour l'instant, on va.
Déjà, allons aux États-Unis.
Ok. Pour l'instant, aujourd'hui, on est là. Demain, comme on dit ici, Inch'Allah.
Parlons de l'entraîneur et du sélectionneur Hervé Renard, parce qu'il y a plein d'anecdotes dans le livre. Donc, je le répète, moi, le foot et l'Afrique. Ce qui fait votre marque de fabrique, c'est ce lien affectif avec vos joueurs et puis avec les différents membres d'un staff, mais aussi des causeries légendaires. On va d'ailleurs diffuser un extrait de cette causerie qui a fait le tour du monde. Vous en parlez beaucoup dans le livre. C'est la causerie à la mi-temps justement de ce Arabie Saoudite-Argentine. Premier match pour vous de la Coupe du Monde 2022, écoutez.
Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Take your phone, you can make a picture with him, hein, if you want. You don't feel we are able to come back? You don't feel it? They play relax. Come on, this is a World Cup.
Voilà, you can take a picture if you want. Mm. Donc voilà, c'est mythique, ça fait le tour du monde. C'est quoi le secret d'une bonne causerie, Hervé Renard, alors?
Mais soi-même. De toute façon, quand on est entraîneur, on est passionné. On ne prépare pas la causerie de la mi-temps. On ne sait pas comment la première mi-temps va se passer. On ne sait pas quel réajustement on va devoir faire. Parfois, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Parfois, il faut employer des mots qui sont durs. Parfois, il faut encourager. C'est jamais la même et on ne peut jamais la prédire. Tous les coachs ont font des causeries différentes à la mi-temps. Après, chacun son tempérament. Là, on met 3 ans pour se qualifier pour une Coupe du Monde et ce n'est pas après 45 minutes qu'on doit baisser la tête et être d'un niveau moyen, même si c'est l'Argentine. Donc, il faut relever la tête. Il faut voir aussi, en étant objectif, que l'Argentine ne joue pas à un rythme encore dans cette compétition qui est le premier match très élevé. Donc, c'est là où il faut en jouer. La motivation pour jouer l'Arabie Saoudite, elle n'est pas la même que quand on joue une finale contre l'équipe de France. Hein. Tout le monde le sait. Donc, c'est là où il faut... c'est un match de Coupe de France entre une équipe de nationale et puis une équipe de Ligue 1. Il y a toujours quelque chose à jouer, mais encore faut-il croire en soi-même. Voilà, c'était un peu le message, si on veut le résumer, quoi.
Et Hervé, quand on t'écoute et quand on t'entend comme ça sur des causeries, et puis même après à animer des matchs, parce qu'il y a les causeries, Benoît, c'est une chose, après il y a ce que tu mets en place tactiquement, physiquement avec tes joueurs, c'est totalement crédible. Et la preuve, c'est que tu as déjà gagné des choses importantes. Mais malgré tout, moi je reste, et on en avait parlé au Qatar, 4 ans après, la France t'avait ouvert un petit peu les portes avec la sélection des féminines. Mais malgré tout, est-ce que tu as une petite rancœur vis-à-vis du foot français qui t'a pas vraiment aidé, ouvert ou tendu la main comme ça pour essayer de prendre un club important? Parce que je pense que t'en as totalement les capacités.
Non, je pense que j'ai raté les deux opportunités. Ouais. C'est tout.
À Lille, tu dis surtout.
À Lille, ouais.
Non, même à Sochaux. À Sochaux, on fait un truc extraordinaire. On revient, ouais. Mais c'est comme je le disais, c'est comme aller en finale d'une compétition et perdre la finale. Ouais. Au final, c'est pas une réussite. Hein.
Oui, c'est vrai.
Donc malgré tout, ce qui a été fait de bien. Un engouement parce que personne n'y croyait. Pendant 6 mois, ça a été exceptionnel. Hein. L'aventure à Sochaux, elle a été exceptionnelle. Et les gens là-bas, magnifiques. Mmh. Quelque chose humainement d'incroyable. On peut comparer Sochaux avec le stade Malherbe de Caen, un peu comme capacité de stade. Marche, les gens sont derrière, tout ça. C'est un fief de football, hein. Mais j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Après, ça se termine mal. J'ai eu une deuxième chance à Lille. Et puis là,
là, on t'a pas laissé beaucoup de temps.
Ouais, j'ai fait 13 matchs.
Ça fait partie des rancœurs.
Points, j'étais 16e. Ouais. Je me suis fait débarquer. Le projet, c'était pas le Lille de quelques années avant. Je pense qu'on est parti sur un aiguillage qui n'était pas le bon, faire confiance qu'à des jeunes. Bon, voilà, on ne va pas,
ouais, tu vas pas,
on va
faire
pas revenir dessus. Ouais. Donc, si je devais faire qu'une réponse à ta question, c'est de ma faute.
Oui, non, mais c'est de ta faute, sauf que, bon, moi, après, tu connais mon franc-parler, et ça m'empêche pas d'être critique par moment et tout, mais c'est vrai que je trouve dégueulasse, si tu veux, qu'on t'ait mis dans la tête. Alors, comme tu l'expliquais très bien à Sochaux, c'est sûr que t'as raté la dernière marche, mais malgré tout, il y a eu un travail incroyable avant, et c'était pas la même démarche à Lille. À Lille, c'est au début d'un projet, un nouveau projet, certes, peut-être une erreur, mais... Et on ne peut pas juger un entraîneur qui a fait 13 matchs, ce n'est pas possible. Donc, moi la rancœur, je l'ai pour toi, si tu veux. Je me dis, mais merde, c'est
non,
pas pour...
Bah, moi, faut pas avoir de rancœur.
Non, mais moi, je football, l'ai parce que... Non, mais Hervé, je sais, et peut-être que ton discours est juste par rapport au mien, mais moi, je pense qu'on ne met pas assez en avant nos entraîneurs français par moment qui ont déjà brillé à l'étranger et qui ont gagné. On n'en a pas assez, et quand on en a, ben, on ne leur donne pas forcément l'occasion. Donc, voilà, je tenais à le dire.
Ouais, c'est gentil, mais j'ai eu une autre opportunité que j'ai refusée. Hein.
Mmh. Ah, laquelle ?
Non, mais on va en parler. Mais c'était, j'étais à la Coupe du Monde féminine en 2024. Là.
Ah oui.
C'était au mois d'août. Voilà. Donc, mais j'irai plus en Ligue 1, j'irai plus. Mmh. Non. C'est, je préfère être sélectionneur. Voilà. Donc, j'ai pas peur de l'annoncer, de le dire. Peu importe.
Vous avez plus les sélections que les clubs, alors, Hervé ?
Oui, aujourd'hui, oui, mais en France, j'irai plus. J'aurais resté en Afrique, j'irai faire de la formation des jeunes si jamais j'ai plus de sélection, qu'on veut plus de moi quelque part. J'ai un centre au Sénégal où des académies de joueurs réputés s'entraînent. Dembaba, Koulibaly, Kalidou Koulibaly, capitaine du Sénégal. Ah oui, voilà. Et ils n'ont pas encore leur propre infrastructure. Ils s'entraînent chez nous. Donc voilà, mais il y a plein de choses à faire. Mais en Ligue 1, je ne reviendrai pas.
Bah, sauf si je viens...
Et on ne voudra plus de moi, de toute façon.
Sauf si je deviens directeur sportif de l'AS Monaco et que je t'appelle pour entraîner l'AS Monaco. Voilà.
Ah
ouais, allez. La prochaine question.
T'as pas dit non. Hein.
c'est pas loin de Cannes en plus, Monaco.
Oui, c'est pour ça que je
vous connaissez la région.
Ouais. Non.
Non, mais il n'y a pas un rêve dans votre tête de devenir, pourquoi pas, un jour sélectionneur de l'équipe de France, puisque vous visez le foot de sélection.
Non, c'est impossible pour moi. Non, il y a des moments. Moi, j'ai une grande qualité aussi, donc c'est la rigueur et après la lucidité.
Oui.
Donc, il faut être lucide dans la vie. Il faut. Aujourd'hui, on connaît la suite, et puis après, il y en a plein qui sont plus aptes que moi pour devenir sélectionneur.
Des candidats, il y en aura, ouais, ça c'est sûr.
Donc, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, il n'y a aucun débat.
Mais ça fait partie du livre, et je trouve que c'est ce message qu'on lit comme ça à travers les différentes pages et les témoignages. C'est comme si, d'une certaine manière, vous aviez cette quête, entre guillemets, de reconnaissance parce que le foot français n'a pas été très ouvert pour vous au départ. Vous êtes exilé dans différentes aventures à l'étranger. Ça a très bien marché en Afrique. Vous êtes revenu, vous avez eu ces expériences compliquées à Sochaux et à Lille. Vous êtes retourné en Afrique, en Arabie Saoudite. Avec le Maroc, ça a bien marché aussi. C'était une façon, le livre aussi, de légitimer votre carrière aussi, de montrer que vous aviez fait des choses et que vous méritiez comme ça le statut que vous avez à l'étranger et un peu moins en France.
C'est Edouard qui a voulu le faire.
Bah c'est lui qui l'a fait, alors. C'est votre ami qui a voulu légitimer votre carrière.
Ouais,
peut-être plus que moi, oui. Mais on va pas se mentir. J'ai 57 ans aujourd'hui. Je cours plus. Je rentre en France. Il y a des très beaux endroits. C'est magnifique. Voilà. J'ai pas saisi les opportunités. Je le répète encore une fois. Donc ça se fera plus et on passe. J'ai plein d'autres endroits dans le monde où je peux. J'ai la chance encore qu'on veuille bien de moi. Donc il faut regarder les côtés positifs. Mais ça veut pas dire que je suive pas. Hein, je suis tout. Hein.
Non, bah, ça, on
parlait de Cannes. J'espère qu'ils vont remonter en national. Monaco, je suis la situation difficile. Le Mignan, quand j'étais à Cherbourg en national, je jouais contre lui. Il était entraîneur de Vannes.
Ouais.
Déjà, il a un parcours exceptionnel pour arriver de Vannes jusqu'à Metz en Ligue 1. Voilà, c'est pas parce qu'il a fait monter Metz en Ligue 1, c'est pas parce que là, il n'y a pas la réussite dans ce début de saison, dans cette première partie de saison, que même si on pense que c'est la meilleure des choses de s'en séparer, que c'est un mauvais entraîneur. Il va rebondir et puis tout le parcours qu'il a fait jusqu'à présent, je peux vous dire que il y a 20 ans, on était au même endroit et c'était Cherbourg-Van. C'était pas l'affiche du national. Hein.
Et voilà.
Ça, c'est sûr, je confirme.
Et il y a eu un beau chemin parcouru. Juste, on voulait revenir sur une dernière expérience que vous avez connue. C'est donc l'équipe de France féminine à travers les Jeux Olympiques à Paris. C'était un beau challenge pour vous. Vous avez fait des efforts financiers pour venir parce que vous étiez avec la sélection saoudienne et vous avez voulu comme ça arriver dans le foot français à travers une sélection nationale. Parcours qui s'est arrêté en quart de finale. Et depuis, il n'y a pas eu non plus énormément de progression dans le foot féminin. C'est votre ami de toujours, M. Bonadei, qui a pris la suite. Qu'est-ce qui cloche en France avec le foot féminin, Hervé Renard ? Quel est notre plafond de verre ? Pourquoi on n'arrive toujours pas à gagner des grands titres internationaux alors qu'on estime qu'on a une grande équipe de foot féminin ?
On estime qu'on a une grande équipe de football féminin. On a une bonne équipe de football féminin.
Ah, une bonne, oui. Ouais.
Voilà. Et il y a des manques. Donc aujourd'hui, on voit que l'Angleterre, qui a décidé de passer à la vitesse supérieure, elle est déjà pratiquement devant la France, alors qu'elle est partie d'un peu derrière. Mmh. Certainement parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, ça n'intéresse pas assez les sponsors. Qui dit investissement, dit infrastructure, développement. À part M. Aulas, qui a démarré il y a quelques années avec une conviction de se dire « ça va marcher », et il a tout fait pour que ça fonctionne, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, donc ça n'intéresse peut-être pas assez les gens en France, on va dire.
C'est vrai.
Et tous ces paramètres font que c'est difficile. Pourtant, la formation, elle est bonne. Aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de joueuses, je pense, à part pour aller à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, enfin... FC Lyon maintenant, là, pour deux joueuses françaises qui vont partir à l'étranger. Donc c'est certainement peut-être que le football féminin est un peu difficile en France. Au niveau des affluences, c'est moyen. Les gens ne sont pas assez passionnés par le football féminin. Quoi.
C'est vrai.
Voilà.
Trop dans la comparaison du foot masculin.
Ce qui fait peur, c'est qu'il y a une forme de fatalité.
On est peut-être trop gâté également avec le football masculin depuis des années. Donc c'est peut-être difficile pour le football féminin d'embrayer également. Mais il y a une volonté depuis, avec M. Diallo et depuis qu'il y a M. Aulas qui est arrivé à la fédération pour s'occuper de la Ligue féminine de football. Il y a une volonté, mais entre la volonté, il faut aussi des budgets assez conséquents,
des moyens,
un développement d'infrastructures. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité, les clubs de Ligue 1, ils sont parfois réticents à ce que leur équipe féminine elle joue dans leur stade principal. Voilà,
ouais,
c'est rien qu'un facteur. Et quand vous jouez sur un terrain annexe, qui est comme, on va rien dire, mais ça ressemble plus à la nationale qu'à un championnat professionnel qui soit télévisuellement très bon. Après, oui, il y a des grandes affiches. Au Parc des Princes, il y en a eu, au stade Groupama à Lyon... Par contre, avec l'équipe nationale, il y a quand même un engouement qui est important. Et il faudrait réussir à passer ce plafond de verre, comme vous disiez. Et voilà, il y aura d'autres échéances. Pour l'instant, elles n'ont pas été une réussite totale. Il y a eu quelques réussites, mais pas totales. Donc, il faut persévérer.
Merci Hervé Renard.
Hervé, merci beaucoup. En tout cas, ce que je retiens de l'interview, Hervé, c'est que si je deviens directeur sportif de l'AS Monaco, tu n'as pas dit non à... au rôle d'entraîneur. Écoute, en tout cas...
Il y a deux infos dans l'info.
En tout cas, tu prends comme tu veux, Benoît. En tout cas, Hervé, non, blague à part, vraiment un grand merci. Bon courage pour les prochains mois.
On rappelle la sortie du livre, Jérôme. Le livre autobiographique coécrit avec Édouard G, notre ami Édouard. Moi, le foot, l'Afrique. Le
magnifique.
Livre, donc, autobiographique pour Hervé Renard.
Écoute, Hervé, merci et bon courage et puis bonne chance pour la Coupe du Monde.
Oui, un grand merci à vous. Soyez forts.
Merci,
ça va, on l'est. Hein.
À bientôt.
Salut.
Au revoir.